Richard au micro, eh bien nous nous retrouvons pour l'émission Terre solidaire. Et aujourd'hui, je voudrais revenir au basique du Comité catholique contre la faim et pour le développement Terre solidaire, en regardant un peu quelle est la situation alimentaire du monde. Évidemment, le premier besoin à satisfaire pour tout être humain, c'est son alimentation, et l'eau aussi, boire et manger. Le nombre de personnes qui souffrent de la famine a baissé. Selon la FAO, pour 1990, c'était autour de 995 millions, maintenant c'est 842 millions. Donc une amélioration, ce qui est d'autant plus remarquable que la population du monde, qui était de 4,5 milliards dans les années 80, est maintenant de 7,2 milliards. Donc la situation globalement s'est améliorée. Le nombre de sous-alimenté a baissé et il est descendu donc dans les régions en sous-développement à 14%. Par contre, il y a encore la famine. Mais la famine, c'est très grave. On parle de famine lorsque les personnes en arrivent à cause de l'insécurité alimentaire à ce que 2 personnes sur 10 000 meurent chaque jour faute d'un accès suffisant à la nourriture. Alors, à quoi est due la famine? Et à quoi est due aussi la faim? La famine, c'est lorsqu'il y a des crises, lorsqu'il y a des guerres. Et les pays qui subissent l'insécurité alimentaire le plus, ce sont les pays en guerre. Aujourd'hui, la Syrie, le Mali, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Donc, des pays en guerre. Et depuis quelques années, ce sont moins les phénomènes naturels, la sécheresse ou la pluviométrie ou les cyclones ou les tremblements de terre qui provoquent ces situations alimentaires épouvantables. Mais c'est plutôt d'autres éléments. Donc la situation s'améliore. Mais on perçoit aussi que l'alimentation pour 2,5 milliards d'habitants vient des petites exploitations familiales qui sont les plus vulnérables. En cas de mauvaise pluviométrie, dans les régions sèches, dans l'Afrique subsaharienne par exemple, la période de soudure, c'est-à-dire les semaines qui séparent l'épuisement des réserves des nouvelles récoltes, est plus longue. Et évidemment, le programme alimentaire mondial est d'autant plus efficace lorsqu'il y a beaucoup d'aliments. Et quand il y a beaucoup d'aliments, on n'a pas besoin de son aide. Donc, l'aide internationale est très aléatoire, puisqu'elle est généreuse quand les stocks mondiaux sont élevés, et autrement, elle est plus faible, et donc l'aide est limitée. Et la population rurale souffre de cette situation, de telle sorte que la guerre ou les difficultés climatiques ou les affaires naturelles conduisent les paysans à abandonner plus ou moins provisoirement leurs terres. La production chute et, évidemment, en période de mauvaise récolte, il y a des phénomènes de spéculation. Les produits sont inaccessibles aux personnes urbaines à faible revenu et puis aux paysans qui n'ont pas suffisamment de produits pour manger. Donc, il arrive que la faim sévisse encore. Alors, la situation varie d'une région à une autre. La majorité des personnes sous-alimentées se trouvent en Asie du Sud. C'est parce que l'Asie du Sud et du Sud-Est est la plus peuplée. Mais elle est passée dans cette région de 31% à 10%. Donc, là aussi, une amélioration. En Chine, l'amélioration a été la plus forte. Et puis, dans les pays de Basse-Asie centrale, il y a une réduction de moitié de la faim, donc c'est mieux. La sous-alimentation, tout de même, se poursuit. Et alors, face à ça, que fait le CCFD? Puisque l'alimentation reste la base de la vie, eh bien, il aide les paysans. Il aide les paysans, et aujourd'hui, aider les paysans, c'est souvent les aider à conserver leurs terres. Alors, on va prendre un exemple. Nous sommes à Taïwan. Une petite paysanne taïwanaise, qui s'appelle Sian Hong, explique. Les autorités locales ont tenté de prendre ma terre, mais j'ai résisté et j'ai gagné la guerre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Et regardons d'un peu plus près. Elle a 2 hectares dans le comté de Miaoli, c'est à l'ouest de l'île. Elle cultive en pastèque et en patates douces. Elle est seule pour nourrir ses 4 enfants, car son mari est décédé il y a quelques mois d'un cancer. Donc seule avec 4 enfants, elle dit « Je travaille dur ». Et en 2008, elle apprend que le gouvernement local projette la création d'un vaste parc industriel de 360 hectares. Pourquoi pas? Pour des manufactures d'objets destinés à l'exportation. Pourquoi pas? Mais son lopin de terre, comme ceux de ses voisins, est situé dans le périmètre qui doit être exproprié pour créer ce parc industriel. Il y a aussi le cimetière qui doit être exproprié. Et quand les promoteurs font le tour des paysans pour acheter leur terre à bon prix, elle dit « Ben non, moi j'ai besoin de ma terre. J'ai besoin de ma terre pour nourrir les enfants, pour cultiver. » D'autres paysans, comme elle, s'opposent à ce parc industriel et ils étudient. C'est difficile parce que à Taïwan, dit-elle, les autorités n'hésitent pas à expulser et à indemniser à leur prix pour faire passer les projets en force. Alors les paysans se sont organisés, ils ne s'en tiennent pas à la protestation. Avec d'autres, à plusieurs, ils enquêtent et ils découvrent que 60% des parcs industriels récemment créés dans le comté sont vides. Puisque les parcs industriels du comté sont vides, pourquoi encore agrandir en prenant leur propre lopin? Et que le projet a été accepté par le gouvernement sur la base d'informations erronées. Ils observent aussi que la famille du maire qui possède des terres dans le périmètre s'intéresse à l'affaire. Alors, ils cherchent à aller un peu plus loin. Le véritable objet du parc ne serait-il pas l'exploitation du sable et des roches, matériaux de construction d'un coût élevé à Taïwan, qui est une île qui s'industrialise, comme on sait, qui se développe. L'affichage industriel ne masque-t-il pas une opération de spéculation? Puisqu'il y a, disent les paysans organisés avec Sian Hong, une offensive d'accaparement des terres. Selon le discours officiel, un hectare est plus productif s'il est affecté à une zone industrielle plutôt qu'à un petit agriculteur dont on critique le faible rendement. Ils ne se laissent pas démonter, les paysans. Ils se sont rendus 12 fois à Taipei. Taipei, c'est la capitale, pour défendre leur cause. Un des fils de Sian Hong a diffusé sur les réseaux sociaux les informations collectées par les paysans. Et coincé par l'argumentaire des paysans qui démonte le dossier point par point, les autorités locales ont annulé le projet. Donc, les habitants d'autres villages victimes d'accaparement de terres viennent lui demander de l'aide. Et maintenant, ils se sont organisés dans une union des fermiers de Taïwan. Et cette petite paysanne rejoint Via Campesina. Elle est appuyée par les jeunes et elle dit « Vous m'avez aidé », notamment en diffusant les informations sur le réseau. Vous aussi, accompagnez vos enfants pour qu'ils embrassent le beau métier d'agriculteur. Nous sommes alertés des atteintes subies par le monde paysan. Il y a trop peu de réussite, mais pourtant, il faut continuer à se battre pour que la terre reste aux paysans. Que fait le CCFD ici? Eh bien, le CCFD soutient Via Campesina, qui, ici, c'est à Taïwan, mais ailleurs, au Brésil, dans certains pays d'Afrique, soutient cette petite agriculture paysanne et propose qu'on forme des agriculteurs, on leur permette de se développer en développant leur agriculture. Alors, allons voir un peu ailleurs comment ça se passe. Eh bien, allons voir par exemple en Haïti. En Haïti, à Gros-Morne, nous sommes dans le département d'Artibonite, au nord d'Haïti, et ITECA, Institut de technologie et d'animation, appuie le développement d'une coopérative de production et de commercialisation des mangues. Là aussi, ils se sont formés, et c'est un des autres aspects de Via Campesina. Se former, vendre des produits de qualité, et ici on a mis l'accent sur la création de petits vergers, le greffage de manguiers, choisir des variétés, et en 2013, les coopérateurs étaient 1600. En 2015, ils sont 2000. La collecte des mangues augmente, les trois quarts sont destinés à l'exportation, le quart restant au marché régional et national. En tout cas, c'est une dynamique très encourageante, parce que cette petite agriculture paysanne qui permet aux paysans de rester sur place parce qu'eux-mêmes sont capables de rendre leur agriculture plus productive à condition qu'on facilite leur formation, ici par la création de petits vergers et le greffage et le choix de variétés, ailleurs en équipant la coopérative de mulets. Au passage, les mulets sont dons du CCFD Terre Solidaire. Donc, des dynamiques intéressantes qui permettent les bonnes pratiques. La coopérative, alors je cite la conclusion en ce qui concerne les mangues à Gros-Morne. Les bonnes pratiques sont acquises, la coopérative est structurée comme une entreprise, elle commence à dégager des marges, et nous pouvons alors explorer d'autres voies du côté de la transformation, par exemple, avec les groupements de femmes qui produisent déjà des jus de fruits et des confitures artisanales. Il y a des possibilités du côté du commerce équitable, disent-ils, de la certification bio. Tout cela est long, tout cela coûte cher, mais nous avançons à notre rythme. Et ici, en Haïti, grâce à l'accord de cofinancement de l'Agence française de développement, qui a développé 460 000 euros sur 3 ans, il y a la possibilité d'accéder au crédit, de permettre la collecte de mangues et de faire en sorte que, sous le manguier, tous les acteurs se réunissent et les paysans prennent en main leur destinée. Ils peuvent manger, ils peuvent se nourrir et puis nourrir les autres. Donc la faim n'est pas simplement due au climat et à la pluviométrie. Dans certains cas, elle est due aussi à l'accaparement des terres, là où le CCFD s'engage beaucoup. Eh bien, je vous dis bonne semaine à tous après ces bonnes nouvelles de projets qui marchent.